voix nue, Caroline Brouet,
Raphaël Pitti, médecin humanitaire.
Quatrième épisode, dans l'enfer syrien. Bonjour Raphaël Pitti.
Bonjour Caroline.
Après nous avoir parlé de votre enfance à Oran, après nous avoir raconté votre formation dans les commandos marines, puis expliqué ce que vous entendez par la médecine d'action avec les centres de formation que vous avez créés, je vous propose ce soir de nous parler de la Syrie, où vous vous êtes rendu une trentaine de fois depuis 2012 pour aider les populations qui étaient prises en étau entre la répression du gouvernement de Bachar al-Assad et les milices djihadistes après la révolution de 2011-2012. Je dis 2012 parce que c'est en fait en entendant la radio, et pas n'importe laquelle, en entendant France Culture, que vous avez pris conscience de la nécessité impérieuse pour vous de vous y rendre. Vous nous racontez ?
Oui, c'était à la mi-septembre. J'allais de Metz à Nancy, puisque j'ai été responsable du service de réanimation, d'un service de réanimation dans une polyclinique de Nancy. Et je partais vers 7h30 du matin et j'avais l'habitude d'écouter France Culture. Et à ce moment-là, il y avait une interview d'un médecin franco-syrien, le docteur Ahmed Banané, qui expliquait qu'en Syrie, les hôpitaux étaient systématiquement bombardés, que les personnels qui étaient arrêtés par le régime étaient emprisonnés, torturés, tués, etc. Et donc, moi qui avais été tellement de fois sur des terrains de guerre, entendre ça m'a révolté. Intérieurement, en tout cas perturbé, révolté. Et je suis resté toute la matinée avec cette idée de ces hôpitaux bombardés, alors même que les médecins ne faisaient que leur travail, c'est-à-dire de soigner les blessés qui arrivaient des zones de guerre. En fin de matinée, j'appelle une de mes amies et je lui dis « Voilà ce que j'ai écouté sur la Syrie, ça me perturbe beaucoup, c'est une ONG qui s'appelle USSM ».
Et elle L'Union des organisations de secours et de soins médicaux.
C'est ça, c'est une organisation franco-syrienne, en tous les cas, de Syriens expatriés, de médecins, qui soutiennent leurs collègues qui sont en Syrie. Et elle me dit, c'est extraordinaire que tu m'en parles, ils viennent de sortir de mon bureau. Ils viennent de me demander une subvention de 50 000 euros pour pouvoir acheter des sacs d'urgence pour les distribuer justement en Syrie. Alors si tu veux, j'ai leur numéro. Et c'est comme ça qu'a débuté l'histoire avec la Syrie, puisque je les ai contactés et que je suis parti quelques semaines plus tard, c'était fin septembre, en prenant 2 semaines de congé. Ils avaient du mal à imaginer que je puisse aller. Ils pensaient peut-être simplement que j'allais juste faire une tournée pour aller voir et puis repartir, etc. Ils pensaient que mon investissement ne serait que superficiel, en fait. J'allais faire du tourisme humanitaire, en quelque sorte, là. Et je les ai mis devant le fait accompli. J'ai pris 2 semaines de congé. J'ai pris un billet d'avion et je suis parti tout seul.
Et vous n'avez pas hésité à partir, parce qu'à ce moment-là, vous avez 62 ans, vous êtes installé à Metz, vous êtes professeur agrégé. Vous avez déjà vécu un certain nombre d'expériences et vous êtes déjà allé sur des terrains de guerre. Qu'est-ce qui vous pousse à y aller ?
Écoutez, je ne sais pas ce qui me pousse à y aller. Il y a le fait que c'est une réalité, c'est un fait, c'est comme ça. Les choses doivent être comme ça. Et tout le long de ma vie, les choses ont été comme ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, les rencontres, les situations font que, j'oserais dire, j'ai pas le choix. C'est normal, c'est comme ça.
Voilà. Je parlais de nécessité impérieuse,
oui,
c'est comme ça que vous l'avez ressenti.
Oui, c'était un fait, il fallait que j'y aille. Ça ne demandait pas de réflexion, il fallait que j'y aille et j'y suis allé.
Parce que là, vous partez quand même seul. Donc vous n'êtes plus médecin désarmé, vous n'êtes plus tenu par aucun cadre, disons.
Non.
Vous entrez en Syrie dans la clandestinité,
oui.
À vos risques et périls.
Oui.
C'est extrêmement dangereux.
Oui, mais je n'en ai pas la perception. Je n'en ai pas du tout la perception. Du tout. La personne qui est venue me chercher à l'aéroport le soir à Taï, l'aéroport en Turquie, ne parlait ni l'anglais ni le français. Je suis monté dans sa voiture, nous sommes allés dans une petite ville, Rayanli, qui est à la frontière avec la Syrie. On m'a déposé dans un hôtel et on m'a abandonné là. Il m'a donné ni numéro de téléphone, ni contact, etc. Et je pensais qu'il viendrait me chercher pour me conduire, mais pas du tout. Le samedi, je suis resté tout seul à attendre, comme ça. Je me suis promené dans la petite ville de Rayanli. Le dimanche, c'était pareil, j'attendais. Et puis, à midi, d'un seul coup, la réception qui m'appelle, il y a un taxi qui vous attend, venez, descendez. Donc, je suis descendu avec mon sac et c'est comme ça que je suis rentré clandestinement par les oliviers, à travers un champ d'oliviers, que je suis arrivé jusqu'à la ville de Dana.
Vous vous souvenez, Raphaël Pitti, de votre arrivée ?
Ah oui, très très bien, parce que donc on m'a amené directement dans cette petite ville de Dana qui avait son hôpital. Et la ville de Dana, si on regarde une carte, elle est positionnée un peu à mi-distance entre Alep d'un côté et Idlib de l'autre côté, Sarmada. C'était la ligne de front où les rebelles se battaient contre le régime. Et donc, Dana apparaissait comme une ville qu'on appelle un hôpital de stabilisation, où les blessés sont ramassés sur le terrain et ramenés directement sur Dana pour être stabilisés. Pas pour être traités, mais pour être stabilisés. Il manquait une structure de traitement. C'est ce qu'on appelle le niveau 3. Là, on est au niveau 2, c'est-à-dire on ramasse sur le front et on ramène vers l'hôpital où on prend en charge les blessés. Je suis arrivé là. Il y avait un médecin qui m'a accueilli et chose extraordinaire, mais je voudrais qu'on le remette dans le contexte. Il parlait français. Il avait été formé à Lyon et il était le directeur de ce petit hôpital. Quand je suis arrivé, bien évidemment, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas rester là. Lui aussi était persuadé que je faisais un tour. Et je lui ai dit, non, mais je suis là pour 2 semaines. J'avais mon sac. Bon. Il m'a conduit vers son bureau, j'ai posé mon sac, nous sommes allés au bloc opératoire, j'ai mis une tenue de bloc opératoire, nous sommes revenus vers l'entrée où il y avait la sas de déchocage, et à ce moment-là, je suis rentré dans la guerre. Immédiatement, ça a commencé à tirer, il y avait une automitrailleuse au fond de la rue qui protégeait l'hôpital, qui s'est mise à tirer aussi. Les gens qui étaient dans la rue sont précipités à l'intérieur de l'hôpital pour venir se protéger. Dans le sas des urgences où il y avait déjà les blessés, il y avait énormément de monde qui a commencé à s'enfuir aussi vers la cave de l'hôpital. À ce moment-là, une voiture est arrivée. Il y avait un blessé à l'intérieur qui avait une plaie qui saignait au niveau de son genou. Ils l'ont transporté. On l'a installé sur un brancard. Les combats ont redoublé de manière très, très intense. Tout le monde s'est échappé. Je me suis retrouvé avec le blessé qui a essayé de se mettre debout. Devant la porte, il est tombé. Je me suis couché avec lui parce que je ne savais pas du tout où les gens partaient. Je venais juste d'arriver. Donc nous sommes restés collés l'un à l'autre. En tous les cas, je lui ai fait un point de compression au niveau de son genou pour arrêter l'hémorragie qui se poursuivait quand même. Et nous sommes restés comme ça, l'un accroché à l'autre pendant environ 10 minutes, ce qui m'a semblé à peu près 10 minutes. Enfin, le temps est difficile dans ces situations. Et puis tout s'est calmé, les gens sont revenus et nous nous sommes mis à travailler. Et ce n'est que vers 5 heures de l'après-midi où j'ai pu, à ce moment-là, on est venu me chercher pour aller manger. Et c'était dans les sous-sols, là où les gens s'étaient mis à l'abri, où il y avait un office et il y avait un plat de riz et de poulet. Et j'ai rencontré mes collègues syriens qui travaillaient dans cet hôpital et nous avons mangé ensemble, nous nous sommes présentés. Et puis, le lundi s'est passé comme ça, où nous travaillons beaucoup. Le mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, à 2 heures du matin, je suis allé me coucher parce que c'était beaucoup plus calme la nuit. Il y avait moins de blessés qui arrivaient la nuit. Et je me suis couché. Il y avait derrière mon lit une grande baie vitrée. Et puis, à 4 heures du matin, j'ai été réveillé par le muezzin, qui semblait pas très loin, mais qui m'a réveillé. Et j'ai eu un réflexe. Mais là aussi, c'est pareil. Je ne peux pas expliquer. Je me suis jeté par terre, au bout de mon lit, recroquevillé sur moi-même, et l'hôpital a explosé complètement. La grande baie vitrée est tombée sur le lit, etc. Tout a été soufflé dans le même temps. Je suis resté comme ça, sur moi-même, avec la respiration bloquée par l'explosion. J'ai vu 2 personnes courir au loin qui allaient se cacher sous des escaliers parce qu'il était possible que l'avion repasse et rebombarde l'hôpital. C'était possible. Donc, je les ai rejoints. Nous sommes restés tous les trois sous les escaliers. Et puis, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai rejoint mes collègues au niveau de la zone technique de l'hôpital. Il y avait du sang partout. Ils étaient dans la cave déjà. Il y avait des blessés. Il fallait évacuer l'hôpital parce que il y avait aussi une maternité, etc. L'hôpital n'était plus utilisable à ce moment-là. Et donc, nous avons passé toute une partie de ce qui restait de la nuit, de la matinée du lendemain. Et après, on s'est retrouvés, ben, les quatre, en tenue de bloc opératoire, avec du sang sur nos habits et avec nos valises, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, nous sommes partis dans une autre ville, de nuit, bien sûr, par la montagne. Nous sommes partis dans une ville qui était au nord-est d'Alep, qui était la ville de Al-Bab.
Ça, Raphaël Pitti, c'est le premier voyage.
Oui.
On ne raconte même pas la sortie de Syrie, de nuit, où oui. Votre iPod se met en marche au fond de votre sac alors que vous êtes en train de rejoindre la Turquie et que là aussi, c'est extrêmement dangereux. Bon, oui. Vous en êtes sorti.
Oui.
Au retour en France, compte tenu de ce que vous aviez vécu, compte tenu de ce que vous avez vu, Là encore, vous décidez de la création d'un centre de formation à la médecine d'urgence, parce que ce que vous avez constaté, c'est que à Dana, mais aussi à Babalawa, poste frontière, hein, au nord de la Syrie, ils avaient besoin d'être formés pour pouvoir sauver des vies, et qu'ils ne l'étaient pas encore.
Mais ils ne l'étaient pas du tout. Donc à Al-Bab, nous étions dans un hôpital clandestin, qui était dans une grande villa d'un dignitaire du régime, et l'hôpital de la ville avait déjà été détruit, il n'était pas utilisable, donc ils travaillaient dans cet hôpital. Les équipes travaillaient en continu, et aucune ne se reposait. Au niveau de l'accueil des urgences, il y avait du sang partout, il y avait de la terre, bien évidemment, les blessés venaient de l'extérieur, ils étaient sales, etc. Personne ne prenait le temps de nettoyer, personne ne prenait le temps de s'organiser. Les chirurgiens voulaient faire de la chirurgie de traitement, alors qu'il faut faire de la chirurgie du damage control, de la chirurgie de guerre. Tout ça, ils ne savaient pas le faire. Ils étaient épuisés et donc, bien évidemment, ils ne savaient pas trier non plus. Ils voulaient opérer tout le monde alors que c'était pas forcément nécessaire. Ils ne savaient pas calmer la douleur non plus. Donc, ça rajoutait en même temps à l'ambiance de stress parce que les malades qui étaient transportés criaient déjà de leur douleur chaque fois qu'on les déplaçait. Quand il fallait faire une radio éventuellement d'une jambe, d'une fracture, alors ils mobilisaient la jambe. Bien évidemment, le malade criait. Cette ambiance en même temps où les gens se sentent dépassés par le nombre, où ça crie en même temps de douleur, etc. Tout ça crée un niveau de stress, un niveau de panique qui est très délétère à la fois pour les malades et en même temps pour les soignants. Donc c'était nécessaire de leur apprendre, c'était vraiment très très nécessaire.
C'est ce qui a fait que vous êtes retourné plusieurs fois aussi
en
Syrie.
C'est ça. Donc quand je suis sorti de Syrie la première fois, au mois de décembre, il y avait un congrès organisé à Paris de médecine d'urgence où j'ai retrouvé mes collègues de l'USSM. Et là, pendant une pause, il y avait un café et il y avait une toile en papier sur la table, j'ai dessiné ce qu'il était nécessaire en termes de centre de formation, le nombre de salles dont j'avais besoin, etc. Et leur dire, voilà, faites ça, construisez ça, d'accord ? Ou trouvez de quoi avoir ces salles pour créer un centre de formation. Moi, je m'occupe de vous donner la liste des matériels pédagogiques dont nous avons besoin. Et trouvez-moi 6 médecins franco-syriens qui puissent venir à Metz pour que je les forme justement à être des formateurs. Et ensuite, nous pourrons ouvrir un centre de formation. Et c'est ce qui s'est fait. Fin du mois de décembre, ils sont venus à Metz. Je les ai formés comme formateurs. Ils étaient 6. Et puis ensuite, en février, nous sommes partis. Le centre avait été créé. Nous sommes partis, mais pas dans le centre, parce que le centre n'était pas terminé encore. Il n'y avait pas les tables, il n'y avait pas les chaises, etc. Donc, nous sommes allés à Alep.
À ce moment-là, vous leur apprenez deux techniques majeures, les techniques de secours de guerre et les techniques médicales de guerre. Ce qu'on appelle l'ATSG, l'ATMG,
c'est hein, le nom
apprentissage
que j'avais donné.
Aux techniques de secours de guerre, apprentissage aux techniques médicales de guerre. Sauf qu'en 2013, après le 29 avril 2013, à Sarakeb, vous avez dû ajouter l'ATMC,
oui.
C'est-à-dire l'apprentissage aux techniques de médecine chimique.
Oui, tout à fait. Alors, les médecins qui venaient à la formation, les secouristes aussi, hein, l'ATSG était la formation pour les secouristes, l'ATMG était la formation pour les médecins, ils me disaient souvent, nous avons des blessés qui sont intoxiqués. Alors, je me disais, non, c'est pas possible, parce que j'en étais, moi, à la notion militaire de l'utilisation des neurotoxiques, et donc du chimique. Le chimique est une arme à destruction massive. Donc, dire que parmi les victimes, il y en avait qui étaient intoxiqués, je me disais, ils doivent se tromper. Alors, il existe des intoxications au cyanure liées aux fumées d'incendie. Si vous brûlez du plastique, le plastique dégage du cyanure. Et donc, si vous êtes dans une zone
proche.
Fermée, proche, etc., vous pouvez être intoxiqué au cyanure et présenter un certain nombre de signes qui peuvent ressembler aux intoxications chimiques. Bien évidemment, c'est du cyanure. Voilà. Et donc, je me dis, non, ils doivent confondre. Sauf que j'étais en Syrie quand un jour on m'appelle au niveau de l'hôpital de Babalawa, en me disant, venez voir, on a une mère et sa fille qui sont intoxiquées. Alors, je suis allé voir, effectivement, présenter tous les signes d'une intoxication par le sarin. Et là, je me suis rendu compte que le régime utilisait les toxiques d'une manière tactique, stratégique. C'est-à-dire qu'il ne l'utilisait pas à destruction massive. Comme nous étions souvent dans une guerre qui était une guerre de snipers, entre deux rues, par exemple, et que les combattants se trouvaient terrés, d'accord ? Et donc, comme c'était des snipers en même temps, difficile à ce moment-là pour le régime d'attaquer sans avoir des pertes, etc. Donc, Il utilisait le sarin dans des grenades, dans des obus, de mortiers, etc. Ce qui fait que ça tirait, ça explosait. En même temps, ça dégageait le produit chimique. Et les combattants, il y avait ceux qui avaient été blessés, bien évidemment, par les éclats. Et puis, il y avait ceux qui tombaient parce qu'ils étaient intoxiqués par la fumée qui, en fait, contenait en même temps du sarin. Du même coup, les autres combattants voyaient leurs camarades mourir d'asphyxie en présentant des convulsions immédiatement après avoir respiré cette fumée, comprenaient que c'était du chimique et quittaient la zone. Il suffisait pour le régime à ce moment-là de savoir attendre à peu près une heure. Ça se dissout dans l'air et à ce moment-là, ils réinvestissaient la zone qui avait été abandonnée par les autres. Et donc, c'était de cette manière qu'ils utilisaient le chimique et non pas à destruction massive. Donc, il était nécessaire de former les médecins à la prise en charge des blessés intoxiqués.
Sauf que cette attaque à Sarakeb, le 29 avril 2013, elle a préfiguré celle du 21 août au Gassarin, dans le quartier de la Ghouta, à Damas.
Absolument.
Là, oui. Vous n'étiez pas là-bas, hein, vous étiez à Metz à ce moment-là. Mais donc, et là, ça a été massif.
Alors, c'était certainement pour moi une nuit terrible. Alors, j'étais bien évidemment en France, j'étais à Metz. Nous étions en lien avec tous les médecins, par WhatsApp, en Syrie, etc. Donc, chaque fois qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, en dehors de la guerre conventionnelle, etc., bien évidemment, j'étais informé immédiatement, j'avais des vidéos, j'avais un certain nombre d'informations qui me parvenaient ainsi. Et le plan général que j'avais mis en place, c'était de mettre en place dans chaque hôpital un référent chimique capable d'organiser l'accueil des blessés chimiques pour protéger l'hôpital d'un risque de contamination des structures. Et donc, à Alep, il y avait le référent chimique, etc. Et nous avions envisagé de développer cela dans toutes les villes de Syrie, de former des référents qui formeraient à leur tour. Sauf que nous avons été pris de court. Et le 21 août 2013, les rebelles étaient dans la périphérie de Damas. Ils étaient en train de rentrer dans Damas. Le régime s'est vu acculé et le régime a utilisé à ce moment-là le sarin à destruction massive, avec des obus, des missiles. Et à ce moment-là, c'est par milliers, c'est-à-dire il y a eu 1400 morts, essentiellement des enfants, des personnes âgées, des personnes très vulnérables, qui sont mortes très rapidement, c'était en pleine nuit, pendant leur sommeil. Et il y avait ceux qui étaient contaminés et encore vivants, qui sont arrivés dans les hôpitaux, qui n'avaient aucun moyen pour les recevoir, aucun moyen pour les décontaminer. Et donc les médecins et les infirmiers se voyaient eux-mêmes contaminés aussi. Les images que je recevais étaient terribles de ce que je pouvais voir. Des médecins que j'ai eus jusqu'à 2h du matin avec mon collègue Ziad, qui demandaient « mais envoyez-nous les protocoles ». De toute façon, ils n'avaient pas les traitements. Il faut à ce moment-là des produits comme l'atropine à très forte dose. Ils n'en avaient pas. Il y avait nécessité d'avoir du Valium à très forte dose, ils n'en avaient pas, et ils n'avaient pas l'antidote aussi des sarins. Donc ils se sont retrouvés totalement démunis face à une arrivée de victimes qui étaient contaminées, qui les contaminaient eux-mêmes, jusqu'à ce que je les entende pleurer, etc. Et jamais je ne me suis senti aussi, assister à un drame d'une telle envergure et de me sentir comme ça, sans l'impossibilité de les aider. Rien. Cette nuit a été, pour moi, très très marquante, si vous voulez, sur le plan personnel, en tous les cas. Ça m'a vraiment beaucoup touché.
C'est pour ça, Raphaël Pictit, que vous avez décidé d'intervenir au plus haut niveau, c'est-à-dire de porter un ultimatum humanitaire au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est après ça ?
Alors non, ça c'était un peu plus tard, à Alep, en 2016, là. Alors les Russes étaient intervenus à ce moment-là, en 2015. En vérité, ils étaient intervenus en disant qu'ils voulaient se battre contre Daesh, mais ça n'était pas vrai. Les rebelles étaient en train de gagner cette guerre. Ils étaient très proches de la fin. Et donc, à ce moment-là, les Russes sont intervenus justement pour changer la donne. Et ils ont attaqué Alep. Et à Alep, ils ont mis leur stratégie qu'ils avaient déjà utilisée en Tchétchénie, qui consiste à encercler la ville, qui consiste ensuite à l'assiéger, on coupe l'eau, l'électricité, etc. Et on la bombarde d'une manière très intense pour amener toute la population à se terrer, y compris les rebelles, etc. Et ça a duré 6 mois. 6 mois d'une telle situation. Alors, nous avons alerté, bien évidemment, à travers les médias, je témoignais de cette situation, nous étions en contact par WhatsApp, manifestement, les Russes n'entendaient absolument pas arrêter leur siège et les bombardements. Avec le régime, ils s'y mettaient à deux pour les bombarder. Et donc, devant cela, nous avons demandé...
Qui était président de la République française à l'époque.
À l'époque. Et donc, il nous reçoit. C'est au mois de décembre, au début du mois de décembre. Il nous reçoit. Nous lui exposons la situation. Bien évidemment, il était au courant de la situation à Alep, du siège d'Alep. Et il nous dit, il a l'air complètement désemparé. Il dit, mais la France est seule. L'Allemagne ne nous suit pas. Que voulez-vous que je fasse ? Et à ce moment-là, me traverse l'idée de lui dire, ben, monsieur le président, déclarer un ultimatum humanitaire. Alors il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je lui explique, nous sommes très proches de la trêve de Noël. Une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui menace tous ceux qui s'opposent à une résolution d'ouvrir des corridors d'évacuation pour la population, tous ceux qui s'y opposent peuvent être poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voilà. Et vous donnez la date du 24 décembre. Alors, il reste un instant comme ça, il dit « Pourquoi pas ? Allez, venez. » Donc, on se lève tous, on passe devant le hall d'entrée de l'Élysée, toute la presse est là, à l'extérieur, il pleut, il fait nuit, il demande aux huissiers de faire rentrer la presse dans la salle de presse de l'Élysée, qui est juste à côté de l'entrée. C'est ce qu'ils font. Puis ensuite, nous rentrons à notre tour, le président se met derrière le pupitre et il dit, voilà, compte tenu de la situation à Alep, de l'impossibilité d'obtenir des corridors humanitaires, puisqu'il y a des oppositions qui sont faites par les Russes et les Chinois, la France déclare donc un ultimatum humanitaire. Et la presse tout entière dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il fait demi-tour et il s'en va. Et il nous laisse seuls, à moi d'expliquer ce que cela voulait dire. Et puis quand cela a été dit, je pensais que nous allions partir... Et les conseillers lui disent « Ah non, non, vous ne partez pas, il faut écrire la résolution pour la présenter à l'Allemagne. » Et donc nous nous sommes retrouvés dans un bureau à rédiger cette résolution. Et ensuite de quoi nous sommes partis, la résolution a bien été présentée au Conseil de sécurité et elle a été votée à l'unanimité, ce qui a permis justement l'ouverture des corridors humanitaires et l'évacuation de la population d'Alep. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, dans des situations comme celles que nous connaissons actuellement,
vous voulez parler du Moyen-Orient ?
Du Moyen-Orient, les politiques n'ont plus aucune idée et ne savent pas comment s'en sortir de la situation dans laquelle ils sont.
Quand une situation est bloquée ?
Est bloquée, ils n'y ont pas. Et il faut absolument leur donner des idées parce qu'ils ne savent absolument pas comment s'en sortir.
Raphaël Pitti, je le disais au début de ces entretiens, vous avez fait plus de 30 voyages en Syrie, entre 2012 et 2022. Je suppose quand même que dans ces voyages, il y a eu des rencontres et des moments suspendus. Comme ce pique-nique dans la vieille forteresse d'un village. Mais qu'est-ce que vous avez vu en Syrie que vous n'aviez pas vu avant ?
Peut-être que, à la différence dans les guerres où j'étais aussi avec l'armée française, d'une certaine manière, j'étais en situation sécurisée. Je n'allais pas seul, etc. Par rapport aux populations locales, je n'étais pas directement en lien avec les populations locales, ce qu'elles pouvaient vivre, etc. Que ce soit au Liban ou en ex-Yougoslavie, par exemple. On n'est pas au milieu de la population, on est en dehors de la population. Et bien évidemment, là, c'était tout à fait différent. Je vivais avec les populations. J'étais en contact avec les médecins syriens. Je connaissais leurs souffrances. J'ai vu, par exemple, évoluer l'état de précarité dans lequel était le personnel soignant. Quand la première fois nous faisions les formations, c'était en 2013. Les médecins syriens, d'accord, venaient en costume cravate. Et progressivement, je les ai vus rentrer dans la misère. Des costumes qui étaient froissés, sales, il n'y avait plus de cravate, il n'y avait plus rien, etc. Ils étaient dans une situation de précarité. Et pas que les médecins, les soignants aussi. Et pas que les soignants aussi, les sages-femmes, etc. Je voyais apparaître progressivement. Et en même temps, j'entendais toutes leurs histoires, j'entendais leurs drames. J'étais partie prenante de ce qu'ils vivaient. Et je voyais combien les populations étaient dans une situation de désespérance en même temps, de désespérance. Les frontières s'étaient fermées, l'impossibilité pour cette population de pouvoir sortir pour aller se réfugier en Jordanie, au Liban, en Turquie, toutes les frontières s'étaient fermées. Elles ne pouvaient que se déplacer à l'intérieur de la Syrie pour essayer de fuir les zones de violence. Et malgré ça, elles se sentaient poursuivies par cette violence auxquelles elles essayaient d'échapper.
Vous voulez dire qu'à force d'y aller, parce qu'il y a aussi la récurrence et le nombre de voyages que vous avez fait, à force d'y aller, vous avez le sentiment d'avoir partagé un peu de la vie de ces hommes et de ces femmes que vous avez rencontrés là-bas, comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant.
Totalement, totalement.
Ce qui fait, Raphaël Pitti, que peut-être, encore plus avec la Syrie qu'avant, vous avez ressenti la difficulté parfois de revenir en France, de retrouver un pays en paix.
Ah oui, oui, oui. Vous avez
comme un décalage.
Un décalage qui était très important pour moi. J'étais chef d'un service de réanimation ultramoderne en France, à Nancy. Et d'autre côté, je vivais une situation de guerre là-bas. Et bien évidemment, j'étais le professeur occidental qui était en Syrie. Et quand il y avait des blessés qui étaient très graves, de jour comme de nuit, quand j'étais présent, on venait me chercher pour me demander mon avis sur le plan thérapeutique, etc. Ou même simplement aussi dans le cadre du tri, c'est-à-dire de me dire, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser mourir ou pas? Et donc, d'un seul coup, je me voyais assigné à cette mission de déterminer si oui ou sinon il fallait laisser mourir là. Et j'ai des images quand même de gens à qui j'ai dit non, on fait rien, on la laisse partir, quoi. Et donc, quand je rentrais, c'était extrêmement compliqué pour moi de rentrer, parce que je le faisais toujours sur mon temps de vacances. Et donc, je ne pouvais pas, en rentrant de Syrie, dire « je vais prendre des congés » pour essayer d'évacuer ce que j'avais. Non, je reprenais le travail immédiatement. J'étais censé être parti en vacances. Et donc, je reprenais le travail. Et à ce moment-là, j'étais confronté à la réalité de la réanimation dans les pays occidentaux. La réanimation, aujourd'hui, c'est une réanimation pour les polypathologiques. Et les polypathologiques, ce sont des personnes âgées qui ont des pathologies chroniques au stade très avancé, etc. Et pour lesquelles on me demandait de leur donner quelques années encore de vie. Et j'avais tout pour le faire, alors que là-bas, il y avait des jeunes qui mouraient parce que nous manquions de moyens. Et c'était insupportable pour moi. J'étais très dépressif pendant cette période et je supportais absolument pas qu'on me parle pendant au moins 2 semaines avant que je réussisse justement à métaboliser tout cela.
Et vous avez fini par démissionner de votre poste à Nancy.
Oui, en 2015, personne ne comprenait très bien ce que je vivais. Personne ne le comprenait, et mes collègues non plus. Mes collègues qui voyaient en moi, qui partaient en vacances à des moments où la vie du service était organisée, bien évidemment, et moi qui disais « la semaine prochaine, je pars », alors que eux, ça leur bouleversait leur agenda, d'accord. Et au fond, j'étais celui qui perturbait leur vie tranquille et quotidienne, bien évidemment. Et moi, j'avais cette difficulté psychologique. Et donc, en 2015, j'ai décidé de partir.
En plus de vos voyages, en plus de votre action, et on l'a entendu, Raphaël Pitti, vous n'avez cessé de dénoncer les exactions du régime syrien dans les médias, à travers vos interventions politiques. Eh bien, c'est de ça que nous parlerons dans le dernier épisode, demain, à suivre l'épisode 5. L'humanitaire, la politique et Dieu. Merci Raphaël Pitti.
Merci à vous, Caroline.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.